7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, journée mondiale des enseignants. Un métier universel avec les doutes, les découragements et les bonnes surprises qui vont avec. Les enseignants ont-ils toujours la vocation et est-ce indispensable pour exercer ce métier? Vous avez la parole les voisins si vous êtes évidemment enseignant. Dans le studio des 7 milliards, Florence Saint-Hilaire et son incroyable vie d'instit, c'est le titre de votre livre. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une ex-chimiste passée par les groupes pharmaceutiques et cosmétiques, épouse de militaires, vous êtes devenue enseignante. Par accident et un peu par raison aussi, non ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'au fond de moi-même, il y avait cette vocation qui était enfouie.
Déménagement, naissance des enfants, vous nous direz comment vous avez également enfanté, finalement une vocation sur le tas. Augustin Dumière, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Professeur de latin grec, français latin grec, enfin vous dites professeur de lettres, hein, mais dans la vraie vie on dit professeur de français latin grec, en banlieue parisienne. Une étiquette qui vous campe un personnage finalement, vous signez un livre dense, drôle, cynique à la fois, un petit fonctionnaire. C'est vous le petit fonctionnaire ?
Absolument.
Et en miroir, il y a la force et l'absurdité de l'institution scolaire. Vous avez fait ce pari fou de rester enseigner dans les quartiers populaires et de fonder une association avec d'anciens élèves pour promouvoir l'égalité des chances et la réussite scolaire à travers les langues anciennes. Pourquoi donc, ou pourquoi pas, pourvu que l'enseignant soit signe d'espérance? Ça sera un peu l'esprit de notre émission. Appelez-nous dès maintenant les voisins, dites-nous ce qui vous fait vibrer, résister ou protester en tant qu'enseignant. 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous lis quelques messages postés sur Facebook. Palmer qui est à Kinshasa en RDC. En Afrique, cette journée ne devrait pas exister pour l'instant, vu la façon dont les enseignants sont traités. L'enseignant est très mal payé. Il y en a énormément qui travaillent depuis des années sans toucher quoi que ce soit. Alors moi, je rajouterais sans rien toucher, vous voulez dire de l'État, parce que les parents mettent quand même largement la main à la poche, notamment pour les fameux frais de motivation. Et d'ailleurs, sinon, vous ne pourriez pas vivre. Kayolo est à Niamey, au Niger. La seule chose qui me motive, nous dit Kayolo, dans ce métier, c'est la reconnaissance. J'ai le devoir de donner un futur à ces innocents, malgré toutes les contraintes qui viendront sur ma route. Mention spéciale à l'institutrice Antoinette Campaoré, celle qui a voulu que nous ayons cette liberté, et à l'émission L'École des Savoirs. Voilà, ça c'était un petit message personnel. Diderot à Yaoundé au Cameroun. Je suis prof d'espagnol au secondaire. Très peu d'enseignants au Cameroun ont la vocation. Beaucoup intègrent l'ENS. Juste pour avoir un matricule dans la fonction publique. Ici, on connaît bien la mauvaise situation des enseignants vacataires, sans formation professionnelle pour la plupart. D'ailleurs, ils sont majoritaires, hein, les vacataires aujourd'hui en Afrique. Mais qui se jettent dans la profession avec un bac. Ceux qui aiment le métier s'en sortent en pratiquant le « learning by doing ». Mais en général, c'est la catastrophe. Moi, j'aime et j'exerce ma profession à 400 km de ma famille. J'aimerais que mon pays émerge aussi grâce à ma profession. J'éprouve beaucoup de plaisir à transmettre des connaissances et je ne sais pas si je serai un jour capable d'abandonner ce métier. Capable d'abandonner ce métier. Ça, c'est émouvant, non, Augustin Dumière?
Oui, c'est très émouvant.
Vous seriez capable, vous, d'abandonner?
Écoutez, pour l'instant, je m'y accroche et je trouve depuis 22 ans, j'éprouve un certain bonheur à le faire quotidiennement. Je trouve même que c'est un des métiers qui a le plus de sens. C'est-à-dire que je suis environné de personnes qui ont fait des carrières tout à fait brillantes dans des cabinets d'avocats ou même parfois dans des banques et qui sont en quête de métiers qui ont du sens. Et je leur dis, il y a quelque chose de très simple. Aujourd'hui, tu rentres dans une salle de classe et le sens,
tu vas comprendre à quoi tu sers.
Voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin d'une heure de cours, vous comprenez à quoi vous servez ou à quoi vous ne servez pas. Mais en tout cas, la question du sens, elle est présente dans un établissement scolaire aujourd'hui.
Daouna poste ce message de N'Djamena. Au Tchad, j'enseigne dans un lycée de la capitale où mes apprenants ont un niveau de vie très élevé, contrairement à moi. Mes élèves me demandent souvent pourquoi je n'ai pas de voiture. Pour eux, l'école est juste une formalité. Devant ce genre de situation, on perd la vocation. Vous n'avez pas été dans ce genre de situation?
Non, pas du tout.
Florence,
voilà, moi j'enseigne en zone d'éducation prioritaire. Et par rapport à tous les messages que vous avez lus, je suis fort admirative de mes collègues qui enseignent en Afrique. bon, qui sont quand même très, très, très démunis. Et bon, voilà, ils trouvent leur bonheur dans la reconnaissance et la gratification. Mais je dirais, notre bonheur, on le trouve dans la gratification des élèves.
On peut se sentir appartenir à une communauté, même d'un continent à l'autre, avec ce métier ou...
En tout cas, quand vous lisez ces messages, effectivement, c'est quelque chose qui fait écho. C'est même quelque chose dont on a besoin, parce qu'on se rend compte que les difficultés dans lesquelles on se débat existent ailleurs et que parfois elles sont même beaucoup plus grandes. Et ça nous rappelle, au cas où on l'oublierait, que mine de rien, même si jamais il y a des difficultés économiques très importantes pour les enseignants, des difficultés à se loger aujourd'hui en France, que c'est, il y a un sentiment de déclassement qui existe, hein, il ne faut pas se voiler la face. Quand on voit les difficultés dans lesquelles peuvent se débattre les enseignants en Afrique, ça incite quand même à se dire que ce qui est ici constitue aussi une chance et qu'il faut aussi le protéger et en voir les bons côtés.
Déclassement par rapport à vos études, à vos diplômes, Augustin Dumière.
Par rapport aux études qui ont été faites et par rapport aux tâches qui sont demandées, par rapport aussi à la question économique, mais effectivement surtout par rapport aux tâches qui sont demandées, c'est-à-dire le sentiment que l'enseignant parfois est pris pour un animateur corvéable à merci qui, au gré des réformes, doit modifier ce à quoi il tient, ce qu'il a voulu enseigner dans sa jeunesse. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose qui est sûrement difficile en France aujourd'hui.
Enseignant, animateur. Allez, appelez-nous pour réagir. 33 1 84 22 71 71. N'attendez pas la fin de l'émission, surtout on vous donne la parole dès que possible.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Et la planète se barre.
Florence Saint-Hilaire, comment raconter à nos auditeurs votre vie d'instit et pourquoi vous tenez absolument à l'adjectif que vous avez ajouté au titre de votre livre « incroyable » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le métier d'enseignant est finalement un métier assez routinier.
Alors ce qui a rendu ma vie en fait incroyable, donc l'adjectif qualificatif que j'ai employé n'est pas du tout exagéré. Et ça aurait pu être un roman, j'aurais pu écrire un roman, mais parfois la réalité dépasse toute fiction. Donc finalement, j'ai fait un récit et j'ai écrit ce livre à la première personne. Alors pourquoi elle est incroyable ? Parce que je suis épouse de militaire. Donc mon mari a passé quelques années en Afrique. Toutes ces années qu'il n'a pas passées avec moi, il était en Afrique. Hein. Congo, Mali, Rwanda, etc.
Et vous,
etc.
Vous êtes restée à quai.
Et moi, je suis restée en base arrière. Et sur le tard, je suis devenue institutrice. Et en suivant mon mari, il m'est arrivé de multiples aventures. J'ai failli mourir dans une explosion avec mes élèves à Toulouse.
Ça, c'était l'explosion de l'usine chimique AZF.
Voilà, après,
il y a eu 30 morts.
J'ai essayé de sortir un enfant de la maltraitance. Tout s'est retourné contre moi. Ça a duré 6 ans.
De procès. Contre...
Voilà, de procès. Tout s'est bien terminé.
Vous avez été accusé pour dénonciation calomnieuse alors que vous aviez un élève qui était un enfant battu dans une école primaire à La Réunion, voilà. Dont le directeur était pédophile et qui a été condamné en justice.
Voilà, c'est très compliqué. On ne le savait pas à l'époque. Bref, il y avait un milieu hostile, même si on était dans une île paradisiaque. C'est quand même très contrasté l'année que j'ai vécue là-bas. Mais tout s'est quand même bien terminé. Et voilà. Et puis au milieu des chaos, il y a toujours des merveilles, que ce soit à La Réunion ou lors de l'explosion meurtrière d'AZF. Et mon livre, c'est je parle de ces vies déchirées pour les enfants en difficulté, mais je parle aussi de moments merveilleux.
Oui, voilà. Parce que vous avez assez tôt choisi de vous diriger vers l'enseignement spécialisé pour des enfants en grande difficulté. On en reparlera, des élèves encore plus mal partis. Augustin Dumière, les profanes n'imaginent pas votre métier comme un métier plein de rebondissements, mais au contraire comme très répétitif. Est-ce que c'est vrai ?
Je trouve pas que ce soit un métier qui soit répétitif, puisque aujourd'hui, quand vous êtes enseignant, vous avez quasiment tout à faire. C'est-à-dire que vous devez poser le cadre, parce que le cadre, dans beaucoup d'établissements, il n'existe pas. C'est-à-dire, en clair, faire prendre des habitudes de travail, adapter les programmes au niveau réel des élèves, ce qui est rarement fait. Donc, vous avez quasiment tout à construire. Et j'ajouterais même que moi...
Vous êtes en train de nous dire que vous arrivez sur une page blanche et que l'éducation nationale n'existe pas en tant que telle.
Nous n'arrivons pas sur une page blanche, mais c'est vrai que, et je pense que Florence ne me démentira pas là-dessus, il y a des élèves qui arrivent au collège ou au lycée avec des difficultés de lecture ou d'écriture. Il y en a beaucoup et on va leur demander de faire une dissertation, d'expliquer un extrait de Montaigne ou de Stendhal. Donc, par conséquent, l'enseignant, c'est celui qui doit inventer des solutions pour faire en sorte que...
Dans un système qui ne fonctionne pas.
dans un système qui a quelques difficultés de fonctionnement, comme disait le président Chirac il y a une vingtaine d'années. Donc oui, il y a toujours quelques difficultés de fonctionnement. Et donc, par conséquent, il n'y a jamais, je trouve, de routine. Alors bien sûr, oui, il y a toujours un bac, il y a toujours des élèves qui rentrent et un professeur. Oui, il y a des rituels, mais... Honnêtement, il y a chaque année des solutions à trouver parce que tant la diversité est importante et puis la diversité des élèves aussi qui viennent de tous horizons, de pays très différents. Donc tout ça concourt quand même à donner quelque chose qui est fort éloigné de la routine.
Mais moi, je me pose toujours la question, pourquoi les enseignants éprouvent le besoin de se raconter dans des livres, même s'ils ne sont pas profs de français, hein, c'est la même chose pour des profs de maths. Aucune autre profession ne se regarde le nombril de cette manière-là, quand même.
Je trouve très sévère, c'est pas du tout se regarder le nombril, je trouve que de raconter. D'ailleurs, les enseignants, moi, je parle beaucoup plus, je trouve, de mes élèves et parfois de mes collègues, mais en tout cas, beaucoup de mes élèves, de mes anciens élèves, parce que il y a quand même une espèce de chape de plomb quand même autour de l'institution. Hein. Je veux dire que nous avons des représentants dont vous savez très bien qu'ils jouent un rôle très important, qui sont nos porte-paroles. Et peut-être que parfois, les porte-paroles de notre profession ne font pas assez entendre ce qui est la réalité d'une salle de classe. Peut-être qu'à travers un discours un peu feutré et un peu aseptisé, on ne se rend pas compte. Et puis que, mine de rien, quand une école fonctionne mal, il y a de la casse, pas seulement chez les enseignants, mais aussi chez les familles. C'est quand même les rêves, les ambitions d'enfants qui croient en l'école, qui se retrouvent cassés par des mensonges plus ou moins institutionnels. Donc, en tout cas, moi, ça a été le cas quand j'ai écrit Un petit fonctionnaire. On se sent quasiment tenu de dire la réalité d'une salle de classe et du fonctionnement des établissements scolaires.
Responsable aussi, parfois, des dysfonctionnements de tout un pays, Florence Dumière, hein ? Pardon, Florence Saint-Hilaire.
Ah non, mais je voulais d'abord rebondir sur ce que vous avez dit avant, Emmanuel. Parce qu'en fait, vous avez dit, les enseignants aiment se regarder le nombril.
Non, mais c'est vrai que les avocats ne racontent pas à longueur de journée les procès, les accusés qu'ils défendent.
Oui, attendez. Ce livre, je ne suis pas du tout écrivain. Ce livre, je l'ai écrit parce que mes femmes de ménage de l'école le demandaient. Parce que, voilà, parce que les ATSEM de l'école maternelle me le demandaient. J'ai fait 10 postes en 17 ans. Et le soir, quand il est 5 heures, que vous restez avec la femme de ménage parce que vous travaillez dans vos classes, vous racontez juste quelques petits moments de votre vie. Et là, quand je racontais ces petits moments, la personne qui était en face de moi avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, mais alors quand est-ce que vous nous l'écrirez, ce bouquin ? Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Voilà.
Il y a beaucoup de poésie dans les cours d'école. Hein, depuis le grand môle qui s'ouvre sur un enfant qui arrive dans une cour d'école vide de province, c'est quand même un endroit. Alors peut-être que les professeurs, ça, vous pouvez le trouver, ne sont pas à la hauteur.
Vous avez une vision romanesque en fait de votre métier.
Il y a forcément de toute façon du romanesque à travers tous ces parcours d'enfants qui ont beaucoup des histoires quand même, qui traversent plusieurs pays, des familles vraiment qui ont des histoires exceptionnelles. Il y a énormément à raconter. Je veux dire que moi, à la limite, je ne prétends pas du tout avoir une inspiration ou quoi que ce soit. Le spectacle, les histoires me sont carrément données par ce qu'est mon métier au quotidien et par tout ce qu'on voit en une journée de cours.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous allez nous donner des exemples hein, quand même de toutes ces rencontres incroyables. Nous donnons la parole à Jean-Bernard qui nous appelle de Douala. Bonjour Jean-Bernard. Allô Jean-Bernard, êtes-vous en ligne avec nous ?
Bonjour.
Soyez le bienvenu Jean-Bernard.
Merci.
Vous êtes au Cameroun et le mot vocation, vous êtes enseignant hein, d'anglais en primaire, à l'école primaire depuis 14 ans. Le mot vocation vous irrite, avez-vous dit ?
Oui, ça m'irrite parce que moi je dis, nous en Afrique, on a connu l'école à partir des religieux. Et ce sont les religieux qui ont amené ce mot vocation. Mais l'école, c'est un vrai leadership. Il ne faut pas qu'on emploie le mot vocation pour les enseignants et qu'on emploie le mot leadership pour les hommes politiques ou pour les banquiers ou pour les avocats. Bon, qu'on emploie le même mot, c'est un leadership. Un leadership.
C'est ce que vous revendiquez.
Oui, oui.
Et en même temps, vous avez dit au Standard à Camille que le mot leadership, je ne sais pas quand même si ça colle bien à vos conditions d'exercice du métier.
Mais vous savez, le problème, ce n'est pas les conditions du métier, mais c'est de prendre possession d'une activité. C'est une activité qu'on exerce dans notre vie. Et on veut voir les résultats. C'est quantifiable l'école. Moi, quand on me dit vocation, c'est comme si je faisais une prière j'attendais que Dieu réagisse. Non. L'école est quantifiable. L'école, c'est une activité qui va avec de la statistique. Est-ce que ce résultat est bon? Est-ce que ce résultat n'est pas bon? Comment est-ce que je fais ça, le leadership?
Bon, alors, où en êtes-vous de votre chiffre d'affaires dans votre classe?
Ben, vous savez, l'école, c'est beaucoup de paramètres. Hein. Surtout en Afrique, il y a l'enseignant, il y a les élèves, il y a les parents. Il y a tout l'environnement autour. Et si on devait faire des proportions, l'enseignant, même s'il apportait 100%, il aurait un résultat de 30% à 40%. Simplement parce que l'environnement étant néfaste, ça ne donne pas de résultat.
Donc les 60% disparaissent dans la nature. C'est comme l'eau qui s'écoule d'un robinet mal fermé.
Voilà, c'est comme ça.
Ouais.
C'est comme ça, ça.
Merci de nous avoir appelé, Jean-Bernard. On donne la parole à Kevin qui nous appelle de Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Bonjour Kevin.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins et les voisines.
25 ans, jeune enseignant depuis 2 ans, vous enseignez en école primaire, en l'équivalent du CE1, je crois que c'est ça. Hein, et votre métier, avez-vous dit, est détesté ou en tout cas évité au maximum par les jeunes. Mais vous ressentez la même chose, vous, en tant que jeune enseignant?
Évidemment, Emmanuel, j'enseigne à l'école primaire. Il y a de cela 3 ans. Je suis vraiment impayé et mon métier est vraiment détesté par les jeunes. Chaque matin, il me faut au moins 45 minutes de marche pour arriver à mon école. Un problème pour avoir le bis. J'ai reçu mon dernier salaire en décembre 2016. Sauf jusqu'aujourd'hui, on donne juste le prime.
Attendez, de quoi vivez-vous si vous n'avez plus de salaire depuis décembre 2016?
Donc je reçois juste le prime. Hein.
Vous êtes dans une école publique?
Oui, évidemment.
Donc vous avez aussi les frais de motivation donnés par les parents pour pouvoir subvenir au quotidien, j'imagine?
Oui, des fois.
Sinon, vous ne pourriez pas vivre?
Non, sinon on ne pourrait pas vraiment.
Donc vous êtes dans une école publique qui est en fait de fait privatisée par l'argent que donnent les familles.
C'est ça.
On peut dire ça comme ça. Merci de nous avoir appelé, Kevin. Que vous inspirent ces témoignages? Je vous vois très, très intéressé, Augustin Dumière.
Oui, ça inspire déjà beaucoup d'humilité quand on voit effectivement les conditions dans lesquelles des professeurs se débattent, qui ne sont pas forcément sûrs d'être payés, la façon dont les intérêts privés aussi prennent la place. Il faut vraiment se dire que on nous a transmis quelque chose. Je veux dire que ceux qui ont fondé cette école, ceux qui ont allé se battre pour que cette école existe, nous ont transmis quelque chose et il faut que nous le défendions et que il doit y avoir une exigence très importante par rapport à ce qu'on transmet à des élèves, par rapport à ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, et se dire que on a quand même, nous, ici en tout cas, une chance inouïe d'avoir une école où les intérêts privés ne sont pas, pour l'instant en tout cas, tellement présents que le salaire d'un enseignant peut en dépendre.
Mais vous acceptez le mot leadership dans votre salle de classe?
Par rapport à ce que dit Jean-Bernard, je serais plus réservé. Le mot vocation d'abord vient du latin, je le trouve assez beau, mais cela dit...
Dites-nous exactement l'origine du mot.
C'est vocare en latin qui veut dire appeler. Donc j'imagine que la vocation est le fait de se sentir appelé. Alors moi je reconnais tout à fait que je ne me sentais pas forcément appelé, que si je dois admettre avoir eu une vocation, c'est beaucoup plus dans les premières années de mon métier d'enseignant que cette vocation s'est révélée.
Et pour vous, Florence Saint-Hilaire, vocation ou leadership?
Oui, vocation, je trouve ça très joli et c'est pas que pour les religieux, les vocations, ça peut être aussi pour les enseignants, en fait, que ça vient du latin. Je suis tout à fait d'accord.
Être appelé par la raison suprême des élèves, des enfants.
Par rapport à ce que dit aussi Jean-Bernard sur les sciences, que tout se quantifie ou des choses comme ça, il faut quand même se méfier. On a quand même dans le domaine de l'éducation des exemples quand même de sciences qui se sont créées, notamment de sciences de l'éducation. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'est pas encore tout à fait probant.
L'école coûte de l'argent aux États et les États aiment bien savoir ce qu'elle rapporte en termes de résultats, d'efficience. On va en discuter. Vous restez avec nous et bien sûr, vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Rendez-vous dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, journée mondiale des enseignants. On en discute avec deux enseignants, Florence Saint-Hilaire qui publie « Mon incroyable vie d'instit », ex-chimiste devenue enseignante par accident, Augustin Dumière, professeur de français, latin, grec en banlieue parisienne qui publie « Un petit fonctionnaire » et vos témoignages d'enseignants sur le métier, passionnés ou découragés. Nous attendons vos expériences et vos arguments au 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à Thierno qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Thierno.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un ancien élève, hein, vous n'êtes pas enseignant.
Non, je ne suis pas enseignant, je suis un ancien élève, mais ouais. Pendant mon parcours, j'ai eu l'occasion d'avoir des enseignants exceptionnels. Et comme je ne savais pas que c'était la journée des enseignants, je tenais à leur rendre un vibrant hommage.
Bon, vous les avez prévenus, ils vous écoutent ?
Non, je ne pense pas, parce que ça m'a pris de court et c'était une surprise. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas.
Bon, vous êtes en direct, on vous écoute.
Ok, ben, d'abord, je souhaiterais réagir à ce que vous veniez de dire, que les enseignants se regardent un peu le nombril à Monsieur Augustin, et je pense pas qu'ils se... Enfin, même s'ils le font, ils ont une raison de le faire, parce que l'enseignement, c'est un métier noble, il donne du savoir, et ce savoir, je pense que dans une nation, c'est tous les enfants d'une république devaient y passer par là-bas. Donc c'était juste la petite parenthèse que je souhaitais d'avoir dire.
C'était une boutade hein, quand j'ai dit ça. C'était pour l'énerver. Oui. Alors, allez-y, d'accord. Alors quels sont les enseignants exceptionnels que vous avez eus? Et qu'ont-ils changé dans votre vie ?
Dans ma vie, j'ai eu les enseignants du primaire dont on ne parle pas beaucoup, au collège et au lycée. D'ailleurs, ça a été un outil décisif dans le choix de mes orientations, de faire un parcours scientifique, parce qu'ils m'ont beaucoup impressionné et j'aimais la façon dont ils transmettaient leur savoir. Et là, aujourd'hui, comme je n'aurais pas
beaucoup
de temps... C'était
en France, c'était dans quel pays, Thierno ?
Alors, pour l'école primaire, c'était en Guinée, au collège et au lycée, c'était en Guinée, et il n'y a que les études supérieures que j'ai effectuées en France. Et j'écoutais d'ailleurs votre émission, l'école des savoirs à l'époque, pour préparer mon voyage.
D'accord. Et donc, vous dites que vous avez eu plusieurs enseignants exceptionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire juste en un mot, un exemple, que vous considérez comme un enseignant exceptionnel ?
Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'est mon instituteur à l'école primaire. Quand je passais le certificat d'études primaires, parce que c'était un monsieur d'abord qui était vraiment dévoué et on le voyait tous les jours, c'était un monsieur, c'est grâce à lui d'ailleurs que je parle bien français. Aujourd'hui, c'est à lui que je le dois, il nous enseignait le français avec les 9 espèces de mots de la langue française, ce qui ne parle pas à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Et on payait les frais de scolarité n'étaient pas énormissimes, mais lui, il nous faisait venir l'après-midi à l'école pour préparer l'examen d'entrée en 7e année, ce qu'on appelle en 7e année en Guinée. Et il nous demandait qu'une seule chose, que chaque élève ramène un paquet de craies. Et il était vraiment superbe. Il était vraiment superbe. Et à l'approche de l'examen, pour un verbe du premier groupe, vous ne l'accordez pas comme il faut. Il manie un peu la carotte et le bâton, mais il est de très bons conseils. Et c'est un épisode de ma vie qui m'a toujours marqué. Je pense que c'est un des meilleurs moments de ma vie. Et c'est un modèle et c'est une référence à la matière.
Merci de nous avoir appelés. J'espère que vous lui enverrez le lien de l'émission pour qu'il vous écoute. Merci Thierno. Ndoya nous appelle de... Oui.
Juste pour clôturer, et j'avais mon père aussi qui n'est pas allé à l'école, il m'avait dit une chose, que dans la vie, il y a deux personnes que vous aimeriez qui soient meilleures que vous, c'est votre fils et la personne que vous aviez enseignée. Merci.
Augustin Dumière, que vous évoque ce témoignage, parce que vous avez dans vos élèves, et puis aussi bien sûr Florence Saint-Hilaire, parce que vous êtes institutrice à l'école primaire, mais vous avez en fait tous les deux des élèves dont les parents, la plupart du temps, n'ont pas eu accès aux études qu'ils auraient souhaitées, non ?
Oui, je trouve que c'est assez, même si jamais bon, on les entend souvent, ces témoignages d'anciens élèves, c'est toujours assez fascinant, parce qu'on passe une année avec des classes, et souvent il y a des élèves qu'on n'entend pas, qui partent avec leur mystère, on ne sait pas comment. Et puis vous pouvez les croiser comme ça 5 ou 6 années plus tard, et puis ils peuvent vous dire voilà, qu'en fait, ils ont vécu des choses extraordinaires pendant cette année, vous ne le perceviez pas forcément, et inversement, d'autres avec lesquels vous dites tiens, celui-là, il accrochait, puis dont vous n'entendez plus du tout parler.
Je le raconte, hein, je donne beaucoup d'exemples dans mon livre comme ça. J'étais enseignante spécialisée pour les enfants dans les collèges adaptés. Hein, c'est des enseignants du primaire, des professeurs des écoles. Et je raconte cette petite fille qui m'avait lancé au visage son carnet de correspondance scolaire en 1000 morceaux, me traitant de tout, etc., etc. On a su après que son petit frère était mort. Enfin, il y avait une tragédie familiale derrière tout ça. Et en fait, je représentais la maman qu'elle n'avait pas. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, je pensais que je ne lui avais rien apporté. Et puis, au bout de quelques années, je l'ai retrouvée derrière un pot de fleurs, voilà, dans une jardinerie locale. Et elle n'avait pas oublié mon nom. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, voilà, moi j'ai réussi, je vous remercie. Maintenant, je travaille dans l'horticulture. Et comme ça, j'en ai plein, hein, j'en ai raconté plein dans mon livre, des anecdotes comme ça. Et voilà, la gratification, ça vient de nos élèves, bien souvent, plus que de la hiérarchie.
Et souvent, c'est vrai que ça vient aussi quand il y a une phase, on ne va pas dire d'affrontement, en tout cas de confrontation. Moi, c'est vrai que je me souviens des élèves, par exemple, qui m'avaient dit au bout d'un mois, non, le grec, en fait, comme c'est une option, peut-être que je ne vais pas continuer, et qui finalement, voilà, j'avais tenu bon, et qui sont aujourd'hui parmi les élèves qui vont le plus fréquemment défendre l'intérêt du grec et du latin pour le plus grand nombre.
Alors justement, Augustin Dumière, on a plein d'auditeurs qui nous appellent, qui voudraient rendre hommage aussi à leurs enseignants. Vous avez fondé l'association Métis. Vous aimez bien jouer avec les mots parce que ça évoque en partie l'origine de vos élèves. Et puis en même temps, ça vient du grec ancien. Ça veut dire quoi, Métis ? Moi, j'ai pas fait de grec.
Alors, Métis, c'est la première épouse de Zeus et c'est la mère d'Athéna. Métis, c'est la ruse, c'est la capacité à anticiper les coups de l'adversaire.
C'est ça, la ruse, le conseil.
Voilà, exactement. Voilà.
Votre association a été créée en 2003. Pourquoi vous avez créé cette association avec vos anciens élèves et pour faire quoi ?
Parce qu'il m'apparaissait qu'aujourd'hui, un professeur avec 3 heures de cours par semaine dans le monde tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose s'il n'a pas des relais à 17h30 en sortant de l'école, s'il n'y a pas quelque chose sur lequel il peut s'appuyer. On ne peut pas laisser les élèves livrés à eux-mêmes selon la disponibilité de leur famille à 17h30. Et donc, voilà, avec les anciens élèves qui étaient quand même les mieux placés pour dire, ben voilà, quand on sort avec un bac, voilà ce qui nous attend dans les études universitaires, dans la vie professionnelle. C'est avec eux que j'ai voulu fonder cette association qui effectivement répondait à un besoin, puisque on s'occupe aujourd'hui de 120 enfants des écoles primaires chaque soir, d'une centaine de collégiens et lycéens qui viennent travailler, remettre en ordre.
Non, c'est pas une garderie, on est bien d'accord.
Non, pas du tout. C'est un temps indispensable pour remettre
en
ordre.
Vous dites on vient lire et apprendre par cœur, mais c'est pas d'un autre âge.
Non,
ça.
Non, on ne vient pas que lire et apprendre par cœur. On remet d'abord un peu en ordre le chaos d'une journée de cours, c'est-à-dire que l'élève qui est allé de classe en classe.
Quand même, vous êtes dur là. Le chaos d'une journée de cours.
Moi, il m'est arrivé de demander à des élèves, puisque les cours de grec et de latin sont souvent en fin de journée, de 15h30 à 17h30, parfois je leur pose la question, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? Dites-moi juste une chose que vous avez apprise en sciences, en anglais, et souvent, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que les élèves sont promenés parfois de classe en classe, en ayant du mal à faire le lien entre les matières. Parfois, c'est des élèves qui promènent des lacunes des années antérieures. Donc, ce n'est pas du tout là une espèce de trait d'esprit ou de coquetterie. Non, vraiment, il y a des élèves qui, à la fin d'une journée de cours, se demandent ce qu'ils retiennent, ce qu'ils ont appris. Donc,
là, je rebondis sur ce que vous avez dit. Parce que,
C'est moins le cas à l'école primaire.
Ah,
quand même.
Là, détrompez-vous, non, puisque moi, je suis spécialisée dans la grande difficulté scolaire et les handicaps. Et là, avant l'émission de radio, on discutait tous les deux. Lui, il est en bout de chaîne. Moi, je suis au début de la chaîne. Qu'est-ce qu'on les enfants que j'ai actuellement ont 3, 4, 5 ans de retard de langage. Ils rentrent au cours préparatoire, ils ne sauront vraiment lire qu'au CE1 ou au CE2.
Là, c'est pour les élèves en grande difficulté.
Ah non, c'est quand même 30% de l'école. Et donc, après, on va les retrouver
On est plutôt à 20% d'élèves qui ont une vraie difficulté à lire, à écrire, à l'entrée en sixième. C'est plutôt ça les chiffres. Enfin,
nationalement, oui, mais pas localement, en tout cas. Pas pour mes écoles. Voilà.
Notamment en région parisienne.
Voilà. Et donc, je retrouve ce que vous dites, ces élèves très fragiles qui seront arrivés au collège et qui ne maîtrisent pas notre langue. Que ce soit dans la campagne même aussi, pas que dans les ZEP, eh bien, ils vont être baladés de cours en cours et ça n'aura pas de sens, souvent, leurs apprentissages.
Mais d'ailleurs, pas seulement les élèves fragiles, je pense que les élèves aussi qui passent d'activité en activité, il y a peu de choses qui s'inscrivent en eux. Quand vous demandez à des élèves, est-ce qu'à la fin d'une scolarité, des élèves sérieux, des élèves qui n'ont pas des difficultés, est-ce que tu peux me citer un texte quelque chose qui t'a parlé pendant ta scolarité, si vous faites l'expérience autour de vous, vous n'avez pas forcément de réponse très probante. Donc ce temps, à la fin d'une journée de cours, il est indispensable. Ça n'est pas qu'un temps où on lit, où on apprend par cœur, c'est un temps où on revient sur tout ce qui n'a pas été compris ou ce qui a été vu par la force des choses et par la densité des programmes, ce qui a été parfois survolé, d'essayer voilà, d'en donner plus à l'élève. Et par ailleurs aussi, c'est vrai, notamment avec les élèves des écoles primaires, on a le souci effectivement qu'ils passent au collège avec une vingtaine, une trentaine de textes qu'ils connaissent par cœur, qui resteront avec eux jusqu'au bac.
Les textes, alors évidemment, vous êtes professeur de lettres, ça reste quelque chose pour vous d'extrêmement important. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale est en train de défaire les réformes de la précédente ministre Najat Vallaud-Belkacem sous Hollande. Du coup, les établissements qui le souhaitent peuvent maintenir le latin et le grec comme option. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens, là, le nouveau gouvernement?
C'est bien. Je trouve que c'est bien déjà de reconnaître que le grec et le latin, notamment dans l'académie de Créteil, que connaît bien Jean-Michel Blanquer, qu'effectivement aujourd'hui...
Qui est l'actuel ministre, voilà, et qui a été recteur de l'académie de Créteil, précisément une académie qui cumule les grandes difficultés scolaires.
Et où un certain nombre de professeurs, je ne parle pas comme mon nom propre, ont réussi à montrer que le grec et le latin ne s'adressaient pas à des bons élèves, mais qu'au contraire, si, à des élèves sans doute sérieux, mais qui avaient un certain nombre de lacunes et que c'était extraordinaire pour s'approprier les mots de la langue française. Donc de ce côté-là...
Mais qui sont vos élèves? Qui choisit le latin ou le grec, voire les deux, en banlieue parisienne, dans des établissements qui sont situés dans des quartiers populaires?
Mais au départ, personne. Si jamais les professeurs de lettres classiques, ils font un travail... absolument extraordinaire, et c'était pour ça que cette réforme des collèges était assez violente et consternante. Ils vont dans les classes de 3e ou dans les classes de 6e pour les enseignants au collège, ils vont présenter leur matière, ils vont en parler pendant des heures. Moi, chaque année, avec mes anciens élèves...
Ils vendent leur marchandise, quoi. Vraiment ça. Non, mais je veux dire,
pour
donner envie.
On peut voir ça sous l'angle de la vente. Je veux dire, on peut dire, voilà, vous avez la possibilité d'en faire pendant une année. Après, vous pourrez arrêter. Mais voilà tout ce que ça apporte. Voilà ce que c'est qu'un mot latin. Voilà comment est-ce que vous pouvez le traduire dans 4 ou 5 langues vivantes parlées aujourd'hui en Europe.
Mais pourquoi c'est un facteur d'égalité scolaire et sociale pour vous, le grec et le latin?
Parce
ça pourrait être les maths.
Parce qu'il y a des tas de familles dans lesquelles le fait d'écrire et de parler français correctement n'est pas un problème. Et qu'il y en a beaucoup.
Je confirme, je me bats pour ça, moi. Donc je comprends. Moi, je comprends le grec et le latin. Ça va leur apporter du vocabulaire et un bagage lexical qu'ils n'ont pas. Et de par leur famille, là où ils vivent, ils n'auront jamais accès à ce bagage si ce n'est pas l'école et le lycée qui leur donnent.
C'est-à-dire que vous avez des familles où il y a effectivement les parents qui reprennent un enfant qui s'exprime mal, et puis il y a ceux qui n'ont pas ça chez eux. Et effectivement, c'est un outil extraordinaire, pas seulement d'ailleurs pour les élèves qui sont récemment arrivés en France, pour ceux aussi dont les parents travaillent ou dont les parents n'ont pas forcément fait des études très poussées. C'est un outil extraordinaire et ça donne en plus de la cohérence.
Vos élèves, leurs parents n'ont pas fait de latin et de grec? Pour la plupart.
Pour 95%, ils n'ont jamais fait ni latin ni grec. Les grands frères et les grandes sœurs, comme je suis là depuis 22 ans, ils commencent à en avoir fait. Et bientôt, les parents, parce que voilà. Mais pour l'instant, effectivement, ce sont souvent des parents qui ne connaissaient pas le grec et le latin et qui sont ravis de voir que, parce que leur raconte leur enfant sur ce que ça leur apporte comme connaissance dans des termes scientifiques ou médicaux qui apparaissent très compliqués et qui deviennent très simples avec une racine grecque. Non, c'est un vrai succès. C'est déjà bien que l'actuel ministre le reconnaisse. Maintenant, la réalité, c'est qu'il n'y a plus de professeurs de lettres classiques parce que le concours de recrutement a été supprimé. Et qu'aujourd'hui, si le ministre actuel veut vraiment aider le grec et le latin, il rétablit un concours. Là, pour le coup, vraiment, ça ira dans le bon sens.
Alors, vous dénoncez évidemment beaucoup dans votre livre une absence totale d'ambition pour les élèves des classes populaires dans les établissements. Vous faites évidemment l'inverse, hein, en proposant du latin et du grec, en proposant de travailler sur des textes, sur la mythologie grecque, y compris avec votre association Métis. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Garba, 36 ans, est en direct avec nous de Niamey. Bonjour Garba.
Bonjour Emmanuel.
36 ans, 15 ans de carrière en école primaire et vous êtes directeur d'école depuis 8 ans. Vous avez dit quelque chose d'intéressant à notre standard, à Camille, qui accueille tous vos appels, concernant la mentalité des parents d'élèves aujourd'hui. Expliquez-nous.
J'ai pas bien entendu.
Vous avez parlé au standard de l'évolution de la mentalité des parents d'élèves, Garba.
Oui, oui.
Allez-y, vous êtes en direct.
Oui, Je suis enseignant, effectivement. J'ai tout à fait dit que c'est un métier que j'aime beaucoup, que j'ai embrassé presque 15 ans aujourd'hui avec une réelle vocation, effectivement, et que pour rien au monde, je ne l'abandonnerai vraiment. Et aujourd'hui, en tant qu'enseignant, mon bilan à moi est très positif, madame. Non seulement j'ai eu de l'estime de mes supérieurs hiérarchiques, je vois des âmes exister et grandir entre mes mains. Vraiment, quel réel plaisir qu'il faut tirer.
Garba, est-ce que vous nous entendez? Pouvez-vous nous dire un mot sur la mentalité des parents d'élèves?
Oui, effectivement, la mentalité des parents d'élèves n'est pas tout à fait... Ils n'ont pas tout à fait une mentalité positive.
Pourquoi cela?
Plus qu'aujourd'hui, un complexe s'est dégagé entre les enseignants et les parents. Et c'est quoi le problème? Il y a les parents d'élèves qui accusent les enseignants de ne pas faire correctement leur job, de ne pas réussir la tâche qui leur est confiée. Et effectivement, ça se voit à travers le résultat. Nous avons aujourd'hui des enfants qui retournent à la maison et qui vont jusqu'à, ou bien qui sont inscrits au CI et qui vont jusqu'à l'âge de CM2, mais qui ne savent ni lire ni écrire. Et puis, au finish, retournent à la maison vraiment bréduits, comme ça, où ils n'ont rien appris. Ce qui fait que, du coup, les parents rejettent la responsabilité, toute la responsabilité d'ailleurs sur les enseignants. Alors que il n'y a pas que les enseignants qui sont vus dans ce système. C'est une composante, c'est vraiment des parties qui interviennent. Il y a l'État, il y a l'enseignant.
Oui, ce sont les attentes de toute une société. Oui, effectivement.
Je suis complètement d'accord, moi.
Merci de nous avoir appelé, Garba. Vous ressentez la
même
pression
sociale? Moi, je veux bien parler de ça. Je suis tout à fait d'accord. L'école ne peut pas tout, en tout cas à l'école primaire. Moi, je travaille avec des enseignants qui sont très investis, qui me demandent de l'aide, puisque moi, je ne m'occupe que des enfants en difficulté. Donc voilà, on n'hésite pas, les vacances, le soir, APC, etc. On s'investit. Mais voilà, ils quittent l'école à 4h30. Et après, eh bien, beaucoup d'élèves ont une deuxième vie.
Il y a du temps de cerveau disponible.
Voilà, il y a du temps de cerveau disponible et pas toujours très bien employé. Il y a les consoles, il y a les jeux vidéo, il y a les télé.
C'est pour ça que vous avez créé votre association Métis. D'ailleurs, Augustin Dumas, voilà, vous dites qu'il faut occuper le terrain tout le temps pour ses enfants.
L'école a une responsabilité énorme aujourd'hui. Je veux dire que moi, je comprends la panique de certains parents en voyant une école dans laquelle la famille, le réseau, l'argent jouent un rôle de plus en plus considérable. Et par rapport à ça, par rapport à cette attente énorme des familles, on ne peut pas se dérober, on est obligé de répondre à cette attente, et ça commence par le fait de leur dire la vérité, c'est-à-dire de ne pas leur laisser croire que, par exemple, le niveau auquel ils vont accéder, moi je répète toujours à mes élèves, vous pouvez mener des études supérieures, mais il faut en faire beaucoup plus, ça va être plus difficile pour vous que pour d'autres, donc préparez-vous dès maintenant, avant le bac, faites-en 10 fois plus, c'est pas parce qu'on vous met 17, parce que vous avez traduit 3 phrases en anglais, non, vous allez être confronté à des gens qui auront passé tous leurs étés en Angleterre et tout, donc préparez-vous-y dès maintenant. Ne vous laissez pas mirer par une espèce de vision idyllique.
Oui. Mais je voudrais dire, alors, c'est très très vrai chez nous, dans nos banlieues, ce qui importe, quelle que soit notre nationalité, notre couleur de peau, notre religion, etc., c'est le rapport des parents à l'école. Des parents qui veulent que leur enfant réussisse à l'école, même s'ils n'ont pas fait d'études, même s'ils veulent que leur enfant réussisse et qui portent leur enfant, et qui sont avec nous, qui sont avec les enseignants, eh bien, à ce moment-là, l'enfant réussit. Moi, j'ai eu un petit enfant du Sénégal qui est venu, et en un an, on lui a appris à lire, écrire, compter. Parce que ses parents le portaient, parce qu'ils voulaient, et ses parents sont illettrés. Et si, dans nos banlieues, les parents, nous respectaient, nous faisaient confiance et portaient leur enfant, eh ben, on irait tous vers la réussite.
D'une certaine manière, lutter contre le mensonge de l'institution scolaire. Finalement, c'est ce que vous dites, Augustin Dumière.
Oui, contre les nombreux mensonges qu'il peut y avoir, et puis surtout essayer de retrouver ce qui était quand même à la base de ce système, à la base de cette école qui est quand même, faut le dire, une très belle invention, qui a quand même donné des magnifiques réussites et qui là, depuis un certain nombre d'années, est en train de tourner le dos à ces
idées. Dire la vérité sans casser non plus l'espoir des élèves.
Absolument.
Ça, c'est difficile. Vous nous appelez, nous prenons une dernière auditrice au 33 1 84 22 71 71. Pardon, un auditeur. Bonjour Bouna, vous êtes à Nouakchott en Mauritanie.
Bonjour, je suis là.
Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Vous êtes instituteur.
Oui, je suis instituteur, je ne sais pas. Je me suis fait instituteur, c'est-à-dire que puisque j'avais deux amours, la pêche d'abord et l'éducation. Et il y a 10 ans, je n'étais pas satisfait des cours que recevaient mes enfants. Je me suis mis à les aider. Et surtout, je n'étais pas satisfait. Et puisque l'aide que je leur apportais plus que ce que leur apportait l'école, j'ai décidé moi-même de fonder ma propre école. Et s'il y a un critère sur lequel je compte le plus, c'est le fait d'être patient, de ne pas mettre l'accent sur la faiblesse de l'élève pour le décourager. C'est ce que je viens d'entendre de votre interlocutrice. Mmh. On a tendance à encourager l'élève. Au lieu de le punir, au lieu de le décourager, je préfère tenir compte de toutes ses faiblesses et demander surtout aux parents, au lieu de le punir aussi, d'être trop exigeant envers lui, de l'encourager. Au lieu de... J'aime suggérer, j'aime proposer.
En tout cas, j'aime bien votre formule, Bouna à Nouakchott. Je ne suis pas devenu enseignant, je me suis fait enseignant. Est-ce que vous vous êtes vous-même façonné enseignant, Florence Saint-Hilaire?
Je me suis façonné enseignant, oui. C'est avec l'expérience en fait qu'on apprend le métier. Mais alors, je suis complètement d'accord avec ce que dit Bouna, c'est-à-dire qu'il faut être bienveillant, mais il ne faut pas oublier l'exigence. Et enfin, ce qui est important pour nous, les instituteurs, enfin, pour ceux qui travaillent avec les enfants en difficulté, c'est qu'à un moment, il faut leur donner la chance de réussir. Et mon but, tous les jours, c'est de mettre l'enfant en situation de réussir quelque chose. Chacun à son niveau. Tout le monde ne fera pas le lycée Henri IV, les grandes écoles, les universités, etc. Mais tant mieux s'ils réussissent à être horticulteurs, bouchers ou ce que vous voulez. Voilà, moi, c'est ma mission.
Augustin Dumière.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bouna.
Sur la façon dont vous vous êtes fait enseignant, vous, depuis 22 ans dans le même établissement,
j'espère
en région parisienne.
J'espère que le travail n'est pas terminé. C'est-à-dire que je pense que voilà, on apprend chaque année, et que c'était ce que je disais à mes élèves qui avaient commenté le texte d'Alain, où Alain dit penser.
Du philosophe.
Oui, penser, c'est dire non. Et je leur disais justement que dès qu'on s'installe dans le confort d'une pensée, je leur disais que même quand j'allais dire aux élèves le grec et le latin, c'est capital comme outil d'égalité des chances, c'est indispensable que si jamais je ne remets pas cette affirmation en question, si je ne me place pas du point de vue de l'adversaire, ça peut finir par devenir faux et tourner à vide. Donc il y a une remise en question permanente de la pratique d'enseignant, mais les élèves sont là justement pour vous remettre en question.
C'est bien ce que je pensais, vous percevez votre métier aussi comme une joute, comme un combat, comme un match?
Absolument, oui, comme un match, comme de la politique, comme beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire, mais en tout cas, un métier absolument essentiel, quoi. Le métier à faire.
Oui. Merci. Enfin, moi, je me bats sur tous les fronts aussi, hein.
Merci à tous les deux. Florence Saint-Hilaire, vous publiez Mon incroyable vie d'institut aux éditions Ballant et Augustin Dumière, Un petit fonctionnaire aux éditions Grasset. Merci à tous les deux d'être venus pour cette journée mondiale des enseignants. Sinatou Saka vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Sinatou.
Bonjour Emmanuel.
Vous travaillez pour les nouveaux médias numériques chez nous à France Média Monde et nous serons ensemble à Abidjan mercredi prochain pour une émission en public. Nous allons dévoiler le gagnant du concours RFI Challenge App pour l'éducation des filles. Et c'est vous qui êtes en charge de ce concours, Sinatou.
Oui, tout à fait. Alors, nous avons reçu près de 600 candidatures qui viennent de 34 pays différents. Les projets étaient assez différents, qui portaient à la fois sur la gestion des règles, le mentorat des filles, et même un projet de plateforme de crowdfunding pour financer l'éducation des filles. Donc, nous sommes assez contents de venir un peu à la fin de ce beau processus. Où
600
nous allons...
dossiers, il en est resté ensuite 108,
exactement.
Et puis 13, et puis aujourd'hui.
Et puis aujourd'hui, 3, que
3.
Nous rencontrerons en vrai, comme on dit en pitch, à Abidjan pour la finale la semaine prochaine.
Voilà, on leur donnera d'ailleurs la parole dans nos émissions qui seront enregistrées à Abidjan. Il faut rappeler que le gagnant remportera...
une dotation de 15 000 euros.
Voilà.
Grâce à nos partenaires, bien sûr, l'OIF, donc l'Organisation Internationale de la Francophonie, Orange, Microsoft, la Fondation Aide et même Facebook qui nous permettent aujourd'hui de réaliser cette belle opération.
Voilà, et puis un accompagnement aussi, bien sûr, il faut le souhaiter. Les voisins, notre émission, je vous le signale, mercredi prochain sera enregistrée à 9h30 à l'Institut français d'Abidjan, au plateau, avec un sujet important, le numérique peut-il créer des emplois pour les jeunes? Venez nombreux, il y a de la place et vous aurez bien sûr la parole, et y compris d'ailleurs à la fin de l'émission, pour discuter avec des professionnels des startups et poser vos questions sur les métiers du numérique. On sait qu'il manque déjà au moins 10 000 développeurs dans un pays comme la Côte d'Ivoire, et il y a de nombreux métiers à découvrir, et d'ailleurs ce sont des métiers qui sont nécessaires pour postuler, pour déposer son dossier dans un concours comme Challenge Up pour l'éducation des filles.
Et surtout connaître le grand gagnant de cette deuxième édition, donc venez nombreux, on a hâte de vous rencontrer.
Voilà, et puis bien sûr vous découvrirez leur parcours à ces finalistes et aux gagnants et ce qu'ils proposent pour améliorer l'éducation des filles en Afrique. Voilà, merci à vous tous, 7 milliards de voisins. Demain, on se retrouve, on aura deux historiens français qui retracent deux siècles de justice des mineurs en France et qui racontent les bagnes pour enfants. Ça ne s'appelait pas tout à fait de cette façon-là, mais c'était assez terrible, ça a perduré jusque dans les années 1930 en France. Voilà, et vous pouvez bien sûr toujours nous contacter par mail 7milliards@rfi.fr et nous envoyer tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci aussi à l'équipe Cécile Lavolo, Camille Nérand, Hugo Violas, Raphaël Lazizi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci à tous de votre fidélité.